C'est l'histoire extraordinaire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
Aujourd'hui, dans l'histoire extraordinaire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, je reçois Célia Pro. Bonjour Célia.
Bonjour Richard.
Dis-moi Célia, qui es-tu ?
C'est compliqué comme question Richard. Je suis journaliste de formation et de profession pendant 8 ans. Et puis à un moment donné, les rêves d'enfant se confrontent à une forme de réalité. Et j'ai plus envie de vivre de la presse, bien que j'étais indépendante et que je travaillais pour qui je voulais avec les sujets que je choisissais. Mais la place des annonceurs de la pub, c'était compliqué. J'avais ce petit rêve dans un coin de la tête d'avoir un lieu où les gens se sentiraient heureux et en tout cas le plus à l'aise possible comme ils étaient. Et ce lieu-là a pris la forme d'une librairie-café à Niort en novembre 2018. Donc voilà, bientôt 5 ans.
Et comment s'appelle cette librairie ?
Ah oui, c'est vrai.
C'était bien quand même.
L'ombre du vent, librairie-café, oui. Rue Saint-Jean, 28 rue Saint-Jean à Niort.
Ok, et donc ça fait 5 ans que vous y êtes ?
Ouais.
Et alors, comment ça fonctionne ? Parce que je pense que ça se détache un peu des librairies, on va dire, habituelles, qu'on trouve un petit peu partout. Peut-être par la taille, peut-être par le fonctionnement.
Bah, je crois que pour ça, le café était vraiment hyper important. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent pas à l'aise dans les librairies, parce que pas légitimes, se disant pas lecteurs. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore trouvé, je pense... un rythme ou le bouquin qu'elle allait les capter. Il y en a qui liront peut-être jamais parce que je crois qu'on a chacun nos moments, nos moyens de nous occuper, nos capacités financières aussi parfois qui nous éloignent un peu des bouquins. Et c'était l'idée de se dire on peut venir dans ce lieu, on peut venir à l'ombre du vent, même si on n'est pas lecteur, juste pour partager un moment avec nous à la librairie, avec un pote, pour un rendez-vous de travail, un rendez-vous amoureux, retrouver ses parents, enfin vraiment... parfois juste pour un café, une boisson. Et on s'est rendu compte que par la taille du lieu, ben les gens ils étaient assis pour boire un verre, par exemple, pas très loin des livres. Mais comme les livres, ils n'étaient pas tous rangés en tranches et qu'on voyait les couvertures un peu partout, certains osaient regarder parce qu'il y avait un mot qui attirait leur attention, parce que ça appelait leur curiosité du voyage. Et c'est arrivé plusieurs fois que des personnes passent en caisse en disant « Oh là là, j'ai jamais trop aimé lire !» je sais pas ce que j'aime, j'osais pas rentrer dans des librairies et qu'on revoit maintenant et qu'ils nous disent « Oh, mais maintenant, j'ose plus partir en vacances sans passer en ville prendre mon bouquin. » Donc voilà, c'était un peu ce pari-là. Et on a des gens qui viennent vraiment aussi juste pour bosser. À l'étage, il y a une salle un peu de lecture où on fait nos temps de discussion, les cafés sexo, les cafés philo, il y a des ateliers de chant. Enfin, il y a aussi plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le livre. C'est-à-dire que quand on fait un café sexo, on n'a pas les libraires qui viennent présenter les bouquins du moment pendant 10 minutes. Non, c'est vraiment un temps avec des personnes extérieures, professionnelles, qui viennent accorder un moment de leur vie pour des personnes qui ont besoin d'échanger sur leurs relations, sur leur rapport au corps, à la sexualité. Et tout ça, par exemple, ça n'a rien à voir avec le livre. Tout comme quand on vient chanter un mercredi sur deux pour un atelier de Circle Song avec la voix plume, il n'y a aucun rapport avec le livre. Mais voilà, ça a créé une petite communauté de gens qui, j'espère, se sent à l'aise de passer la porte. Et on le voit à chaque vacances, ils reviennent, ils nous présentent la famille, qui descendent de Paris, qui arrivent de... C'était un peu cette idée, quoi. Donc, l'idée de peut-être, quand tu demandais ce qui était différent, de ne pas proposer les... que les livres qui viennent juste de sortir, parce qu'ils font l'actualité, parce qu'ils vont être présentés à la télé. Alors qu'on reçoit un mail hein, de nos représentants qui disent « Attention, cette semaine à la Grande Librairie, sur France Inter et dans Philo Magazine, tel ou tel auteur, ben, c'est pas pour ça qu'on aura les bouquins. Et si quelqu'un les veut, ben, on dira « Oh, il va falloir attendre au moins une semaine le temps qu'il arrive. » Donc c'est aussi réhabituer les gens à prendre le temps. Que consommer, ça ne veut pas forcément dire avoir tout de suite ou en 48 heures, comme certains grands géants de la distribution sont capables de le faire.
Du coup, j'ai une question. Pourquoi L'Ombre du Vent ?
L'Ombre du Vent, c'est le titre d'un livre. Et en vrai, je pense que parfois, on se tord la tête pour trouver le nom du lieu qu'on va ouvrir, presque comme pour trouver le nom de son enfant. Oh, ce parallèle. Et là, c'était trop évident pour moi. Souvent, on me demande si c'est mon livre préféré. Alors, bizarrement, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est mon livre préféré. bien que je l'emmènerais sur une île déserte, si j'avais le droit d'être à 10, pas à 3. Mais c'est juste un livre qui montre super bien le, comment dire, un peu ce que peut faire un livre. C'est vraiment un enfant dans ce bouquin qui va avoir une vie bouleversée par la lecture d'un bouquin et qui va mettre un peu tout entre parenthèses pour retrouver l'auteur de ce livre. L'ombre du vent, c'est un livre dans le livre. Daniel, le personnage principal du livre, 10 ans, est réveillé un matin par son papa, qui va l'emmener dans un lieu hyper secret, le labyrinthe des livres oubliés à Barcelone. Il faudra même pas qu'il en parle à sa maman. Et dans des dédales et des dédales de bibliothèques, d'étagères, d'étages, il va choisir un livre, autant que le livre le choisira. Et ce livre, c'est déjà L'ombre du vent. C'est pour ça que je dis que c'est un livre dans le livre. Il va le dévorer en une nuit, planqué sous sa couette. Et il comprendra pas pourquoi il a jamais entendu parler de cet auteur. Et il va le chercher. Et ça va être une quête et on le poursuit avec ça, avec lui, jusqu'à l'âge adulte. Et ça bouleverse son quotidien.
Et puis moi qui connais un petit peu le lieu, je trouve que c'est intéressant. J'ai l'impression que dans ce lieu-là, c'est un moment où on peut respirer. L'ombre du vent, en tout cas cette espèce de tempête de vie, et ici on peut respirer. Je trouve que c'est un lieu qui respire cette chose-là en tout cas.
Bah c'est, ça fait plaisir, c'était un peu l'idée.
Est-ce que du coup on pourrait dire que vous êtes un peu victime de votre succès ?
La question qui tue. On va me dire qu'il faut pas faire de mais ça me demande un peu de réflexion. Je dirais pas ça, notamment parce qu'on a un peu perdu l'habitude du bar. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert en 2018, je pense qu'il y avait cet ancrage très important de la librairie idéale, qui était vraiment le libraire généraliste du centre-ville, avec des libraires compétents dans chacun de leurs domaines, avec un vrai rayon polar, etc. Et je pense qu'on m'a un peu attendu au tournant de se dire, bon, c'est qui cette jeune trentenaire qu'on connaît pas ? Est-ce qu'elle ouvre un lieu un peu fun, ou est-ce qu'en plus d'ouvrir un lieu un peu fun, elle est capable de nous conseiller des livres ? Donc il y avait vraiment cette découverte liée à un lieu cool où on allait boire des coups. En vrai, ici, on est contente. Enfin, les voyants sont au vert, les gens nous font confiance, il y a un super accueil tout de suite. Donc, pour ça, c'est cool.
Et quand vous ne travaillez pas, Célia, vous faites quoi dans la vie ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de votre bébé, du coup, si je peux dire. Mais vous avez une vie quand même à côté. Enfin, je pense. Vous. Est-ce que vous avez un peu de temps pour une vie à côté ?
Oui, j'ai un peu de temps pour une vie à côté. Après, c'est un sujet un peu compliqué. Quand on s'est vu, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple, de mon engagement, de ce que je fais ? Je me rends compte qu'il y a eu un avant et un après librairie. Enfin, clairement. Et c'est un temps investi dans ce projet qui est colossal. Et pourtant, j'ai toujours beaucoup travaillé quand j'étais journaliste. J'étais déjà journaliste indépendante, mais je crois que j'organisais mon temps différemment. Le commerce, pour ça, ça a quelque chose de très particulier. C'est que on se donne à fond, on est ouvert 5 jours sur 7, souvent en décalage, on ferme les dimanches, lundi. Donc c'est pas les jours où on peut s'imprégner de moments de vie ou s'engager dans le plus de choses. Et puis en vrai, je crois que les 3 ans solo m'ont aussi beaucoup, beaucoup fatiguée. Donc je me rends compte que j'ai fait beaucoup, beaucoup moins de choses que pendant un temps où je pouvais avoir une pratique sportive, où pendant mes années avant d'arriver à Niort, j'avais créé un collectif féministe avec 4 autres copines où vraiment on y passait un temps fou dans l'idée d'accompagner des femmes dans un secteur en Picardie où il n'y avait même pas de planning familial. C'est vrai que j'ai pensé en arrivant réussir à combiner tout ça et ça ne s'est pas fait. Peut-être par manque de temps. Alors, c'est pas un manque de temps, parce que ça m'énerve les gens qui disent ça. Je pense qu'on a toujours du temps quand on veut faire quelque chose. Mais en tout cas, par disponibilité d'esprit. Et parfois, c'est ce qui rend un peu ce projet un peu lourd à porter par moment. Parce que je me dis, putain, j'ai ouvert ce projet, j'avais ce lieu, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. C'est un peu les années de liberté, plus dans le temps. Temps où je me sens plus apaisée dans mes choix, je suis certaine de ce que je fais, et finalement ça me prend une telle énergie que ben, quand on ferme la porte le soir à 19h, il y a toujours les derniers blabla, le temps de faire la caisse, tout ça, je me dis oh là là, il est déjà l'heure de manger. J'ai un peu ce truc là, et trouver l'énergie d'aller à une AG, trouver l'énergie de me rendre devant un tribunal parce qu'il s'y passe des trucs avec des enjeux hyper importants. C'est pas facile. Donc finalement, ces choses-là, j'arrive à les faire en mixant ça avec l'activité de la librairie. Mais ce qui rend un peu fou, parce que finalement, ça reste sur mon temps de travail où je vais accueillir des comédiens qui vont retranscrire ce qui se passe en plein milieu du tribunal pendant les procès contre les militants anti-Bastine, que je vais pouvoir créer ces temps-là où l'étage va servir de salle, où on pousse tous les meubles pour faire des grosses lettres noires, feuille par feuille, pour faire des collages féministes. Il y a ces temps-là, mais c'est hyper sporadique, en fait. C'est vraiment quand... ou quand j'ai plus du tout d'énergie, bizarrement, et où j'ai besoin de me dire « il n'y a plus rien qui va, ce monde est pourri », et où là j'ai besoin d'agir et je sais que ça va me redonner un coup de fouet, ou quand on vient me solliciter. En fait, par contre, si on vient me solliciter, je suis toujours la première à dire « ben oui, bien sûr, venez, on fera de la place à l'étage, vous pourrez répéter là avant de retourner faire vos scénettes au tribunal ». Enfin, c'est un peu cette idée-là que ce lieu, il serve aussi de un peu d'arrière-salle de plein de choses, parce que pour le coup, j'ai milité... pas mal avant, et je crois que c'était un peu toujours cette limite déjà du lieu. En fait, dans combien de villes on galère quand on veut se regrouper à trouver un espace. Donc j'ai la chance à 30 ans d'être une meuf qui a entrepris et qui a pu le faire avec ses envies et en plus sans thune forcément. Et maintenant il y a ce lieu-là, quoi. Donc j'ai pas envie qu'il soit juste utile aux horaires d'ouverture et à des simples fins commerciales. Mais en vrai, dès que j'ai du temps. J'ai envie de m'échapper, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, m'échapper, ça veut dire prendre mon camion, trouver de la nature. Je me rends compte que je suis pas forcément quelqu'un de la ville. Et j'ai ouvert ma librairie en ville. Je crois que j'aurais adoré réussir à oser ouvrir en milieu rural. Ça, c'est peut-être un peu un de mes regrets. Donc, je vais chercher ce milieu rural quand je suis en week-end, me barrer au bord de l'eau, en plein milieu des arbres. J'ai besoin de ça. Donc, en fait, je suis... assez peu disponible autrement que pour ma pomme dans ces moments-là, un peu.
Bavarde un peu, non?
Ouais. C'était le nom du collectif, c'est rigolo. Les bavardes. Ouais, ah non, c'était le nom du collectif.
Ça marchait bien. Du coup, vous me disiez que vous militiez aussi avant pour des femmes ou dans des lieux où il n'y avait pas de planning familial.
En fait, ça a été un peu un constat d'urgence et ça a été... Quand j'ai commencé à bosser, j'étais à Poitiers, initialement, où il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient et où j'ai rejoint des mouvements qui existaient déjà et où, d'année en année, j'ai un peu constaté, mais je pense que toute militance et tout sujet confondu, ça se rejoint, qu'on était vachement entre personnes convaincues et déjà concernées. Donc c'était hyper excitant, on faisait des réunions, des AG, on était toutes d'accord, c'était génial. Mais tu rentres chez toi, t'es hyper contente, ok, et on en fait quoi? On va où? Qu'est-ce que ça donne? Comment on touche les personnes qu'on n'arrive pas à toucher, qui ont besoin d'un espace de parole? Et pour le coup, et c'est un peu dommage, mais le côté hyper dévasté de la Picardie, dévasté dans le sens des initiatives, a fait que avec des inconnus, et je pense que ça a beaucoup aidé, des nanas, on avait de 22 à 44 ans à l'époque, de milieux sociaux très différents, on ne se connaissait pas. Donc c'était pas un groupe de potes qui s'est dit « Ah tiens, on va faire un collectif de meufs ». C'est plutôt sur des bouts de réunion, moi à la fin d'une interview, enfin sur des micro-moments, où on s'est dit « Putain, c'est quand même pas possible d'être dans une région... » qui souffre de cette image des filles mères, du nombre d'abus, d'agressions, de viols, bon bref, une région de cassos, comme d'autres aiment le dire parfois malheureusement, et où il n'y a absolument rien pour accueillir, accompagner ces femmes. Et en fait, finalement, pour le coup, sans compétences particulières, on s'est dit, ok, nous on a envie, on est 5, on va créer quelque chose et on va voir ce qu'on peut faire petit à petit. Donc ça a pris la forme de groupes de parole... à l'étage d'un bar en non-mixité où t'es une nana, tu peux toujours dire à ton mec que tu vas boire un coup avec des copines et en fait à l'étage, plus personne sait ce qui se passe à part les personnes qui sont là. Et là on se retrouvait avec des nanettes de 16 à 85 ans vraiment, qui avaient 1000 choses à partager, 1000 moments compliqués avec toujours des thématiques, comment répondre à ça. Et puis ce temps-là nous a fait nous rendre compte qu'il y avait aussi peu de visibilité. Pour les femmes dans plein de secteurs, dans le secteur du travail, mais dans le secteur de la culture. Ok, classe l'antienne, on va trouver des bars, on pourra faire des scènes ouvertes exclusivement pour les meufs, avec un public mixte, évidemment, mais où Nana aura pas peur des commentaires d'un mec qui fait de la musique depuis 15 ans, qui aura toujours un truc à dire sur la corde de sa guitare. Ça a pris plein de formes, et puis petit à petit, ça donne une visibilité. Et n'ayant pas de planning familial, les établissements scolaires se disent... Ben, peut-être qu'elle pourrait venir parler aux gamins, qu'on mit l'idée reçue, qu'on mit le peur, mit le tabou, qui sont qu'on esprit un peu, voire complètement pourri par le porno. Et puis, enfin voilà, ça, en fait, ça a eu un effet boule de neige complètement dingue, qui a emmené à des événements plus importants, l'organisation de la première Gay Pride à Amiens, c'était un gros mot, mais on ne sait pas comment l'appeler autrement, une université populaire féministe où on s'est dit, bon, bah, on a des locaux dans tel ou tel asso copine, mais en fait, il y avait tellement de participants et de participantes que moi, j'arrivais à New York cet été-là, mais les copines ont dû faire ça dans un parc. Et il y avait des petits groupes de 4-5 personnes, mais je ne sais pas, je crois qu'il y avait plus de 70 participants pour réfléchir à plein de sujets, et tout a été consigné, a donné lieu à des réflexions, des propositions à la municipalité. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui a pris. Et petit à petit, la preuve, moi, j'ai quitté Amiens, je suis arrivée à Niort. Et le vivier de bénévoles qui s'était constitué a permis un changement de gouvernance. Enfin, des cinq du départ, il en restait petit à petit plus que trois, plus que deux, plus que une, et le relais a été pris, il y a eu une première salariée. Enfin, c'est une histoire complètement... En vrai, c'est une histoire complètement dingue, en si peu de temps, d'avoir pu mener ça. Et je pense qu'au début, ça m'a un peu manqué. C'était une aventure tellement humaine et de grande ampleur, où on se sentait un peu invincible. On sort, on fait un collage, bon, la semaine d'après, on a des bombes de peinture, c'est plus les mêmes actions, mais on n'avait jamais peur de rien, en fait.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que vous êtes féministe?
Oui, je suis féministe.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression dans le féminisme, tout le monde a un peu sa définition. Quelle est votre définition du féminisme?
Oh, putain, c'est dur. Wow. C'est dur et en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est pas un milieu exempté de... Comment dire? De rivalité, de désaccord... Et t'as toujours un groupe de nanas qui se dit féministe aussi, qui t'attend un peu au tournant, qui dit « Ah toi, tu donnes cette définition-là, mais c'est pas possible, tu peux pas être féministe et penser ceci, si t'étais vraiment féministe, tu défendrais cela. Quoi, t'es féministe et t'es pour le port du voile ?» Enfin bon, en fait, il y a plein de sujets en vrai où pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Et je pense que nos prédécesseurs, ceux, ont fait un travail de dingue, mais il y a quand même eu des vagues de féminisme. Et on est arrivé, je pense, à une quatrième, cinquième vague hyper importante qui a pris des formes très différentes. Je pense à l'effet MeToo, à un moment donné, qui a bouleversé, qui a un peu rabattu les cartes et choqué une ancienne génération. Et des sujets qu'il était absolument grand temps d'aborder, mais qui nous ont un peu séparés, qui a créé un clivage entre les nanas. Je pense notamment aux féministes essentialistes de l'ancienne garde qui peuvent avoir des propos jugeants, rejetants sur les personnes trans. Enfin, il y a mille sujets sur lesquels, en vrai, ben, il n'y a pas encore de consensus et c'est compliqué. Alors que pour moi, être féministe, c'est défendre absolument toutes les femmes, quelles qu'elles soient, en fait. Et être une femme, ça ne veut pas dire naître avec un vagin, et ça peut vouloir prendre toutes les formes. Et en fait, tant qu'on se sent femme, eh ben, on l'est, et c'est hyper important de pouvoir défendre toutes ces personnes-là, de leur donner une voix, parce que les défendre, c'est hyper... chouki. Moi, je ne les défends pas, en fait, mais que les unes les autres, en tout cas, on arrive à créer... des espaces sains, des espaces safe, où aucune nana ne devrait se sentir mal à l'aise, et encore une fois, que chacune puisse être absolument qui elles sont, qu'elles se sentent à leur place pour pouvoir parler, qu'elles aient jamais rien à garder pour elles, où elles se sentent honteuses, que quand elles sont victimes, elles sachent qu'elles sont victimes et qu'elles peuvent parler, qu'elles se disent pas que c'est de leur faute. Et je crois que c'est ça qui est le plus important... pour moi, et qui est pas facile en fait à trouver, et qui fait peur, même en collectif, on le voit. Il y a des sujets qu'on met un temps fou à aborder. Un vrai collectif, il a une charte, parce que tôt ou tard, dans la presse, tu peux pas être... T'es un collectif de 5, tu peux pas être 5 à répondre à un journaliste. Donc normalement, tu te mets un peu d'accord. Prostitution, voile, question de la transidentité, c'est les trois sujets qui ont toujours un sujet de division, qui pour moi ne devrait pas en être un. Mais réussir à se prononcer... Ben, on est plein à se dire « Oh là là, si je m'avance là-dessus, qui va me tomber dessus? Qu'est-ce que... Nanana. »
Comment vous vous voyez dans 10 ans?
Je me vois sans l'obligation d'accorder le temps que j'accorde aujourd'hui au travail. C'est pas moi et mon rapport au travail, c'est mon regard global sur notre rapport au travail dans ce monde-là. Je trouve que c'est complètement délirant le temps qu'on y passe. et l'investissement que ça demande au détriment malgré tout de plein d'autres choses. Donc on va pas se lancer dans des hypothétiques revenus universels, des choses qui permettraient, je pense, que ce soit autrement. Il y aura toujours des gens qui veulent plein de thunes et qui bosseront et qui feront tourner l'économie. Mais il y a aussi des gens qui se questionnent de plus en plus, je pense, sur notre façon d'être au monde, sur notre façon de consommer, et qu'on se rend compte, on est plein à se rendre compte, en tout cas moi je me rends compte, que plus je suis fatiguée, plus le boulot me pèse d'une certaine manière, même si j'adore ce que je fais, plus je consomme, parce que j'ai besoin de compenser, je m'achète une fringue, je vais au resto, j'ai besoin d'un énième voyage, et je sais que quand je ralentis, je me sens quand même beaucoup plus sereine, je dépense moins, donc j'ai besoin de moins d'argent, donc ce cercle vicieux, à un moment donné, j'ai envie de foutre un peu un coup de pied dedans. Et parfois, je me dis, je préfère encore vivre de moins, mais vivre sereinement, avoir le temps de faire du jardin, de revoyager, de rencontrer les gens, et pas voyager parce que j'ai 15 jours montre en main de vacances. Ça, j'ai plus envie de prendre l'avion pour 15 jours de vacances montre en main. Je dis pas que je pense ne plus travailler dans 10 ans. Mais j'ai plus envie d'avoir un travail unique. Je suis une amoureuse de la crête. Ben, Manolis, mon voisin, il a besoin de quelqu'un dans l'oliverie pour l'aider à faire la récolte. Ben, ok, je fais une saison de récolte. J'ai envie de redécouvrir en fait les rencontres et le travail par ce prisme-là et travailler pour uniquement ce dont j'ai besoin. J'y ai pensé, hein. Un jour je me suis dit, ok, Célia, t'as besoin de combien pour vivre ? Est-ce que dans cette ville ou ailleurs en France, on continuerait à venir dans un commerce où peut-être le 12 du mois, il y aurait écrit sur la porte, à ce jour, j'ai atteint le chiffre d'affaires qui me suffit pour vivre sereinement, on se retrouve le 1er du mois prochain. Je pense qu'en vrai, ça marcherait pas de ouf. Et pourtant, j'y ai pensé. Sauf que voilà, dans ce genre de projet, c'est pas possible. Donc peut-être qu'un jour, la librairie sera, dans 10 ans, reprise par quelqu'un d'autre. En tout cas, le lieu. Je partirai, j'espère, jamais en laissant s'installer un magasin de fringues. Ça me rendrait hyper triste. Mais je crois que j'aimerais partir avec une bonne partie d'un stock de livres. L'avoir en itinérance dans un lieu qui sera peut-être ma maison et puis on est là, on n'est pas là, mais quelque chose de beaucoup moins organisé et automatisé en fait.
Et donc vous voyagez beaucoup ?
La Grèce, je voyage crois, plus trop, j'ai beaucoup voyagé, j'ai mal voyagé, j'ai pour le coup beaucoup mieux gagné ma vie avant, surtout en étant seule et sans enfant. Et j'ai eu ce truc débile du un week-end à Stockholm, un week-end à Venise. Bon bref, une empreinte carbone à chier, vraiment. Et je crois que j'y pensais même pas, alors que j'écrivais quand même pour des magazines sur l'environnement. Grosse classe, tout le monde a sa petite dissonance cognitive. Et ouais, il y a 20 ans, pas du tout. Je me vois dans 10 ans, ça y est. Non, il y a 12 ans, je suis tombée amoureuse de la Crète. Voyage improvisé de fin d'études, c'était pas cher. Un vol jusqu'à Athènes, et puis à Athènes, je sais pas, j'avais pas envie de la ville. Donc un ferry, et je me suis retrouvée en Crète. J'avais pas de représentation, j'avais pas de smartphone pour organiser le voyage au fur et à mesure. Et à pied, en stop, pendant 5 semaines et demie, j'ai arpenté cette île avec ma compagne de l'époque. Et ça a été une histoire d'amour, vraiment, avec cette île, avec ses habitants, qui, pour le coup, ont une vision des choses différentes. Alors ils travaillent que tous comme des dingues, un peu phototourisme, mais en même temps ils en ont besoin, c'est aussi un peu le cercle vicieux. Mais c'est un pays de confiance, d'accueil et de rapport humain qui fait énormément de bien, et moi qui me repose, j'arrive, j'atterris, je pleure, j'ai tout le corps qui se détend, c'est un truc un peu particulier. J'ai toujours eu un peu honte de dire ça, parce que ça rapporte un peu à des vieilles notions ou réactions, un peu de phrases coloniales, mais je suis pas du tout de là-bas, mais je me sens parfois crétoise, quoi, c'est un peu chelou. Pourtant, j'ai vraiment aucun ancêtre grec, je crois. Mais donc, quand j'ai du temps, je suis un peu monomaniaque, je vais en Crète. Je ne suis jamais retournée ailleurs depuis l'ouverture de la librairie. Donc je suis pas retournée même à Lisbonne, que j'adore. Dès que j'ai un temps, j'ai besoin de ce temps-là.
Merci Célia.
De rien Richard.
Si, pour terminer, si je traduis un peu la chose, si j'essaie de vous définir, je note bavarde, entrepreneuse, voyageuse, militante, passionnée. On rajouterait un autre mot ?
Bah, c'est tellement pas mal comme profil que c'est quand même hyper flatteur. Amoureuse de plein de choses.
amoureuse de plein de choses.
Ouais, amoureuse, je trouve ça génial. Je trouve que ça dicte plein de belles choses, l'amour. Ça rend joyeux, puis ça rend libre. Et puis ça donne des idées et des ailes pour oser plein de trucs. Que ce soit l'amour de son conjoint, conjointe, ou de plein d'autres choses.
Hein. Eh bien, merci beaucoup, Célia.
Merci.
Vous pouvez écouter cet enregistrement sur Pigouille Radio dans votre établissement que vous pouvez diffuser largement avec grand plaisir. Merci beaucoup, Célia.
Merci, Richard.
Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure et même jour, avec une nouvelle histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.